Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi, de 18h20 à 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, qu'est-ce que notre société attend de ses artistes? Trois actualités récentes nous sont apparues comme susceptibles d'être liées ce soir quant à la place que nous accordons collectivement aux artistes. Sont-ils des lanceurs d'alerte, entre guillemets, tels l'actrice Aden Ellel, les dénonciateurs tels Piotr Plavinsky ou encore des artistes auteurs comme le laisse entendre le rapport remis par Bruno Racine au ministre de la Culture quant au statut que doivent désormais avoir les auteurs dans notre société? Nous allons en parler avec quatre invités. Samantha Bailly, bonsoir. Vous êtes présidente de la Ligue des auteurs professionnels, on en parlera avec vous. Louis-Julien Petit, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réalisateur de films et les films ce sont Les Invisibles, c'était en 2019 même.
Ouais,
Discount, c'était en 2013. Et puis Myriam Mindou, vous êtes avec nous aussi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes artiste plasticienne pluridisciplinaire, vous êtes exposée, vous avez été exposée jusqu'à la semaine dernière à la galerie Maya Muller à Paris. On parlera de votre travail ainsi qu'avec Isabelle Barbier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en art du spectacle à l'Université de Paris, chercheuse associée au CNRS et auteur d'un livre qui est paru il y a 2 ans ou l'année dernière aux Presses universitaires de France l'année dernière, L'art du politiquement correct. Un extrait des poèmes à Lou de Apollinaire avant le cinéma. Et puis ce soir, on s'en ira au cinéma. Les artistes, que sont-ce donc? Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes, ce sont les acteurs et les artistes et les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné, ni cinéma, mais cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût?
Le César de la meilleure réalisation est attribué à...
Roman Polanski pour J'accuse.
Vive la pédophilie! Bravo la pédophilie! Bravo!
Voilà, il y a un peu plus d'un siècle entre l'écriture de ce texte d'Apollinaire et cette soirée des Césars qui fait encore beaucoup parler d'elle avec cette question des artistes qui y ont participé, celles qui ont voulu la quitter, cette cérémonie des Césars, et cette question qui tout compte fait nous intéressait à partir de ces poèmes à Lou d'Apollinaire, à savoir est-ce que les actrices et les acteurs sont aujourd'hui au-dessus, différents des autres artistes. Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts, ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, Isabelle Barbéris. Qu'est-ce que vous en dites dans l'art du politiquement correct, votre livre paru l'année dernière?
La question étant, est-ce que les artistes sont au-dessus
Ou différents?
Qu'est-ce
qu'on attend d'eux, en tous les cas?
Il y a en quelque sorte une forme de paradoxe que l'on retrouve dans l'histoire du XXe siècle, qui a à la fois été l'histoire du modernisme en art, et dans le modernisme prévalait une figure de l'artiste, Clément Greenberg, le grand théoricien, dit assez aristocratique et donc autonome, séparé de la société. Par rapport à ça, il y a un paradigme qui va vous parler, dont vous avez cité ce poème où il est question de l'acteur et de l'actrice qui va tendre à mettre en avant comme valeur, comme critère de l'art, l'action, l'acteur, et peut-être aujourd'hui, on le voit par exemple chez Aden Ellel, l'activiste hein, prend aussi le dessus sur l'actrice, et chez Plavinsky, la fusion, en tout cas, il la revendique comme totale. Et on voit très bien que d'un côté, on a donc une tradition désormais dépassée donc de l'artiste séparé de la société, et aujourd'hui une conception de la très sociétalisée de l'artiste, très hétéronomique, et où l'artiste, alors après, à nous d'en juger, mais se définit lui-même souvent comme le transformateur, comme un moyen de transformation de la société. Après, la société peut juger de, effectivement, est-ce que cette transformation aussi proposée
lui convient,
est la bonne ou pas.
Voilà. Myriam Mindou, vous qui êtes artiste, qui est exposée un peu partout dans le monde et qui avait exposé jusqu'à très peu dans la galerie Maya Muller à Paris, c'était jusqu'à la semaine dernière, mais vous étiez aussi à Venise l'année dernière ou il y a 2 ans. Est-ce que cette question de ce rôle et de ce qu'on attend de vous en tant qu'artiste, vous le ressentez comment justement?
Alors je dirais que je ne sais pas précisément ce qu'on attend de l'artiste, mais l'artiste de fait a une pratique. Alors évidemment je parle en mon nom, hein, puisque je ne peux pas parler d'une façon générale. Moi en ce qui me concerne, j'ai une pratique très méditative en fait sur le monde, je l'englobe. Je pars du local au global. Je sais que c'est très subtil, c'est très complexe. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, ce qui m'intéresse, en tout cas, dans le cadre de la performance, c'est de polariser les corps. Donc, je suis dans une pratique beaucoup plus chamanique. Je m'adresse, je dirais, à ma communauté humaine, en quelque sorte. Je ne fais pas de séparation, ni entre les hommes, les femmes, ni de couleur, ni de culture. Je mets en place un système qui me permet d'être en relation avec justement ce public et d'amener une conscience par polarisation dans ma pratique, en tout cas de la performance.
Mais lorsque vous discutez avec celles et ceux qui viennent voir vos performances et qui viennent peut-être voir aussi vos œuvres quand elles sont exposées, qu'est-ce qu'elles attendent ou qu'est-ce qu'elles disent de ce que vous faites? Parce que c'est aussi important que de savoir comment ce que vous proposez est reçu.
Alors, les gens, d'une façon générale, ont le sentiment d'avoir vécu un moment. C'est-à-dire que j'installe une temporalité, puisque nous sommes dans une société quand même extrêmement de vitesse, qui est problématique aussi, hein, puisqu'on n'a plus le temps d'incarner les choses, d'incarner les dialogues, les relations, je dirais les échanges, et même les pratiques. Et donc, j'installe en fait une temporalité en tant que plasticienne qui fait que finalement, je les entraîne dans un voyage. Et le retour, c'est qu'ils ont vécu quelque chose de très personnel et en même temps, ce sentiment d'avoir vécu quelque chose de très personnel est partagé. Voilà, donc après, il n'y a pas de retour précis, si ce n'est d'être entraîné dans une temporalité particulière.
Et d'avoir créé une sorte d'événement autour de votre travail.
Tout à fait, qui m'échappe d'ailleurs, hein, puisque l'artiste est dépassé par son propre acteur.
Louis-Julien Petit, vous qui êtes cinéaste, réalisateur de deux films, Discount, c'était en 2013, et puis Les Invisibles,
c'était 2015,
pardon, excusez-moi.
J'en ai fait un autre milieu, qui s'appelle Carole Mathieu.
Ah ben, voilà, je ne l'ai pas vu.
Isabelle Adjani.
et Les Invisibles, en revanche, a été vu par énormément de personnes. Vous avez tourné dans le monde, puisque vous l'avez présenté dans le monde entier, et vous en revenez encore de tournées récentes, et vous allez encore continuer à le présenter, qui est un film dont vous avez voulu qu'il parle des invisibles, et en particulier ces femmes SDF que vous avez suivies d'abord dans une sorte de travail d'enquête, et puis ensuite que vous avez transcrit avec la comédie que vous avez construite. Qu'est-ce que vous vouliez incarner, justement, pour ce qu'on parlait justement avec Myriam Mehindou, de cette question de l'incarnation?
Oui, moi je suis un peu d'accord avec mes deux collègues de table aujourd'hui, c'est que en fait, moi mon travail déjà en tant que citoyen, moi en tant qu'homme, je suis parfois heurté par des injustices de société. Donc moi c'est le moteur de mes films. Je ne sais faire que du cinéma, donc quand je suis heurté par une injustice, je vais faire un travail d'investigation pour essayer de la comprendre. Et essayer naïvement, hein, avec le moyen qu'est ma caméra, de proposer des solutions. Souvent, ça va dans la désobéissance civile. Souvent, ça va dans des propositions où c'est interdit, mais c'est juste. Et à nous, en faisant corps aussi avec les spectateurs, d'apporter un débat et d'essayer, en tout cas, de me rapprocher d'autres acteurs qui luttent au quotidien. Ouais. Donc je m'inspire de la société civile pour en sortir quelque chose qui va rester, un film, et qui va avoir des répercussions dans la société civile.
Je ne suis pas sûr qu'Isabelle Barméris, vous soyez tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Louis-Julien Petit, puisque dans votre livre, vous dites que les artistes sont devenus des ingénieurs du social qui feignent de se retirer pour laisser la place à ceux qu'ils appellent les invisibles.
Oui, alors parce que c'est vrai qu'une des choses, je ne suis pas allée voir votre film, même si le sujet m'intéressait, parce que je dois dire qu'en fait le titre était un petit peu comme le, mais j'irai le voir parce que le sujet m'intéresse. Mais on m'en a dit le plus grand bien, mais pour moi le titre et ça ne concerne donc pas le film lui-même, assez symptomatique d'une tendance à mon sens trop appuyée des expressions artistiques actuelles à vouloir montrer, à vouloir rendre visible, à adopter à une conception de l'art qui se rapproche de la communication. Parce que quand on veut passer un message, on transforme aussi son médium en médium de communication. Alors je ne dis absolument pas que c'est le
mais
cas.
Le film est un objet. Le film, à un moment donné, arrive à un objet de marketing quelque part, puisqu'il faut le vendre et intercepter un maximum de personnes. Sur le titre, je suis désolé si ça vous a rebuté, c'est adapté, le film est adapté d'un documentaire qui s'appelle « Sur la route des invisibles ». Les invisibles, c'est toutes les minorités qu'on met de côté, que la société met de côté. Donc moi, au contraire, je pense que en tant que cinéaste, heureusement que, en tout cas, pas forcément pour moi, mais heureusement qu'il y a des artistes, je sais pas, des cinéastes comme Xavier Legrand qui va parler des violences faites aux femmes, comme Andréa Bescon qui va parler du viol ordinaire. Heureusement qu'il y a Édouard Bergeon qui va parler des suicides au glyphosate. Et heureusement que le cinéma est là pour moi, pour intercepter et réunir.
Et visiblement, malheureusement pour Isabelle Barbier.
Sinon, on serait dans une société complètement édulcorée et complètement de la même couleur, monochrome, quoi.
Samantha Bailly, vous qui avez créé la Ligue des auteurs professionnels pour justement faire pression sur le gouvernement, sur les politiques pour que le travail d'auteur que vous menez avec d'autres, vous l'avez créé cette Ligue des auteurs professionnels avec des gens comme Johan Svaar ou avec des auteurs comme Benoît Peters, soit reconnu presque par la société, par un statut. On est assez éloigné de ce qui vient d'être dit,
en fait,
ou
on
pas.
On est très proche de tout ce qui vient d'être
alors,
dit.
Alors allez-y, expliquez-nous pourquoi.
Passionnant, enfin je le dis. C'est vrai que là, on est presque en sociologie ou en anthropologie. Peut-être que la figure la plus proche de l'artiste, ce serait le chaman. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire ce rôle, à la fois avec un pas sur le côté en périphérie pour être capable de dire des choses, et en même temps, comme vous l'avez dit, des êtres humains qui sont dans notre société. Et nous, ce qu'on constate...
En même temps que vous pratiquez là.
Oui, mais en même temps c'est vrai, je repratique. Ce qui est très intéressant, c'est que d'un point de vue administratif et d'un point de vue légal, on est dans une forme de schizophrénie, puisqu'un artiste-auteur, donc quand on parle d'artiste-auteur, on parle des plasticiens, des plasticiennes, des écrivains, écrivaines, scénaristes, sculpteurs, sculptrices, photographes, etc. Ce qui est différent des artistes-interprètes, comme justement les acteurs, les actrices. En fait, on se rend compte que nous sommes dans des contradictions entre les textes. On est perçu via nos œuvres dans le code de la propriété intellectuelle et on est considéré comme des travailleurs dans le code de la sécurité sociale. Et donc, on est
dans
cette espèce d'entre-deux.
Vous dites que la sécurité sociale ne fait pas la différence entre l'homme et l'œuvre, contrairement
Oui, en fait, en effet, la sécurité sociale vous dit, vous avez des revenus en droit d'auteur, vous travaillez, vous êtes un travailleur, point. Et par contre, le code de la propriété intellectuelle ne définit pas ce qu'est l'auteur, il dit simplement, est auteur celui qui crée une œuvre. Et qu'est-ce que c'est qu'une œuvre? Eh bien, dans le droit d'auteur, d'un point de vue français, une œuvre est à la fois une originalité, une empreinte de la personnalité et en même temps une forme, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait un format, qu'il y ait une conception, qu'il y ait quelque chose qui donne un ensemble. Et donc, quand on part de là, on se rend compte que séparer l'œuvre de l'homme, parce que c'est un peu cette grande thématique, d'un point de vue strictement pragmatique dans le quotidien, ça ne peut pas exister, puisque nous sommes des êtres humains. Et le droit d'auteur est très particulier en France, c'est un droit qui est personnaliste. On estime qu'une œuvre, c'est la prolongation de la personnalité de l'individu, ce qui est à nul autre comparable dans tous les textes que vous pouvez trouver. Et la particularité, c'est la rémunération, puisque les artistes-auteurs sont la seule population dont la rémunération n'est pas liée au temps de travail, mais uniquement au succès. C'est-à-dire que vous êtes payé en fonction de combien vous vendez.
Oui, c'est d'ailleurs très étrange. Peut-être Isabelle Barberis, vous qui travaillez donc dans l'enseignement des arts du spectacle, que de voir mélanger. Moi, je l'avais pas imaginé comme ça, le terme d'artiste et le terme d'auteur. Souvent, on avait une tradition d'auteur qui remontait à la création au XVIIIe siècle des premières sociétés d'auteurs autour de Beaumarchais. Et puis, le terme d'artiste avait une autre tradition. Et là, on voit que maintenant, par ce rapport Racine, mais également par l'usage qui en a été fait par le ministre de la Culture, Franck Riester, eh bien, on mélange les deux. On est artiste et auteur à la fois, ce qui est un peu étrange.
C'est le code de la sécurité sociale qui parle d'artiste-auteur et le code de la propriété intellectuelle parle d'auteur.
Oui.
Isabelle Marbéris.
Oui, merci. Je trouve ça très intéressant et d'avoir aussi votre cadrage. Sur le plan de l'histoire des idées, c'est la convergence d'une sorte de double histoire. Hein. Aujourd'hui, on assiste à un retour de l'auteur, à mon sens parfois qui est délétère et qui conduit à des cabales. Hein. Les cabales, c'est les phénomènes de censure quand on cherche à détruire un auteur.
Qu'est-ce que vous avez en tête quand
j'ai par exemple en tête, il y a la grande cabale contre Racine, mais c'est pas celle-ci que j'ai en tête. J'ai en tête des cabales contre Kanata, contre donc Ariane Mnouchkine, Robert Lepage.
Kanata,
c'est une pièce de théâtre qui a été mise en scène par Robert Lepage et accueillie par la troupe et jouée par la troupe d'Ariane Mnouchkine l'année dernière, ou je pense aussi à Philippe Brunet qui a reçu des accusations infamantes de racisme. Donc ça, c'est aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est il y a un retour de l'auteur. Et du côté de l'artiste, aujourd'hui est un modèle très important dans notre société. Je voudrais juste conclure là-dessus, c'est un modèle aussi sociétal global, c'est-à-dire aujourd'hui les gens dans la société veulent tous devenir des artistes, ils s'identifient tous à la figure de l'artiste, pour le meilleur et aussi pour le pire. Parce que ça peut donner à peu près tout et n'importe quoi.
Myriam Mindou, vous pensez que justement cette démocratisation, puisqu'on parle de démocratisation autour de cette idée que tout le monde pourrait être artiste, correspond à une vision différente de l'artiste que celle que vous pratiquez ou que vous avez, qu'on vous a enseigné ou que vous voulez être dans la société, ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui fait convergence entre justement ces tentatives d'être soi-même artiste que voudraient être beaucoup d'entre nous, et puis de l'autre côté, le travail que vous menez qui est très singulier?
Alors ça, c'est une question vraiment très compliquée, mais c'est vraiment très complexe comme question même à y répondre. Parce que déjà, à la base, un artiste, c'est quelqu'un, c'est un véhicule de sa communauté. Donc c'est quelqu'un qui va parler pour sa communauté. Et donc, progressivement, on a mis en place des lois qui considéraient que l'artiste était une personne à part entière. Et je pense qu'aujourd'hui, on en arrive à un moment où, évidemment, ça se complexifie, puisque il y a une urgence, en tout cas pour l'artiste, d'entrer en immersion avec sa communauté. Et donc, de nouveau, reprendre cette place, en fait, pratiquement de véhicule et de passeur. Et donc là, dans le prisme de la loi, c'est très compliqué parce que on doit statuer la place de l'artiste. Alors que finalement, moi, en tant qu'artiste, c'est vrai que j'ai une pratique où je pourrais très bien, alors je ne dis pas ça pour ma galerie, mais c'est vrai que je pourrais aussi bien, je serais très heureuse de pouvoir pratiquer sans pour autant passer par tous ces filtres-là, puisque c'est ça mon travail, mais je dois nécessairement le faire. Donc c'est un conflit perpétuel, en fin de compte, entre l'artiste et le système. Est-ce qu'il doit répondre à ce système? Est-ce qu'il ne doit pas y répondre? Il doit inexorablement, de toute façon, le respecter pour pouvoir vivre et survivre de sa pratique.
Mais quand vous dites, Myriam Mindou, que vous êtes, d'une certaine façon, vous considérez plus ou moins comme chamane en tant qu'artiste, c'est un autre statut que le statut qu'on a accordé pendant très longtemps, tout au long du XXe siècle, à l'artiste comme avant-garde. Et on pourrait dire d'une certaine façon que quand on entend Adèle Haenel ou d'autres artistes pendant la cérémonie des Césars, on se dit, il y a une tradition de l'avant-garde, c'est-à-dire avant les autres, les artistes pensent le monde, sont là pour dire quelque chose que le monde n'entend pas. Est-ce que c'est la même chose que ce que vous considérez comme être chaman?
Moi, je pense que l'artiste est au-dessus et au-delà de ces débats. Parce que l'artiste, c'est quelqu'un qui anticipe sur le monde, qui a des visions, qui voit, qui entrevoit. Et d'une certaine manière, il est à la fois dans le politique, le social, dans le biologique, dans toutes ses pratiques, on va dire, même scientifiques. Et en même temps, il est un petit peu au-dessus de tout ça. Il est sur des parallèles, en fait. Il observe le monde et sa pratique l'amène à l'entrevoir de façon particulière. Donc du coup, moi, je pense que toutes les pratiques sont recevables. Je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, on traverse une période de crise, de colère, où on a besoin de remettre un petit peu d'ordre dans ce chaos. Et donc, comme on remet de l'ordre, c'est du mouvement, c'est de la transformation. C'est aussi de la transformation, et donc dans cette transformation, il y a des lois qui sont là. Alors comment, finalement, on parvient dans ces transformations à faire bouger les lignes? C'est tout le problème.
Louis-Julien Petit.
Oui. Non, mais vous parlez de la cérémonie des Césars. Moi, j'ai fait partie de la tribune des 400. C'est les 400 artistes qui se sont dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'était pas du tout en corrélation avec la vie d'aujourd'hui. Moi, quand je vous entends parler, je me sens pas du tout artiste, parce que moi j'ai l'impression de faire un travail extrêmement concret qui m'isole excessivement, parce que il y a beaucoup de travail d'écriture. Enfin, trois quarts de ma vie est passé à l'écriture en tant que cinéaste, et en tant que réalisation de cette écriture. Et quand je parle de cette cérémonie qui en fait moi comme tout le monde, j'ai un peu j'étais complètement désarçonné par l'opacité de l'organisation des Césars. C'est ça qu'on a voulu mettre en avant, en disant que elle ne correspond plus du tout à la société d'aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir un film sur deux qui est éligible. Il ne peut pas y avoir il doit y avoir plus de mixité, plus de parité, plus de que les âges soient différents, qu'il n'y ait pas que des personnes de plus de 70 ans, mais aussi des jeunes, des gens qui cherchent, etc., que ça soit plus à l'image, en tout cas, qu'il y ait une transparence plus forte. Voilà.
Oui, et quand Adèle Haenel dit, à propos de cette cérémonie des Césars, après l'avoir quitté, il voulait séparer l'homme de l'artiste, il sépare aujourd'hui les artistes du monde. Qu'est-ce que vous pensez d'une phrase comme celle-ci? C'est-à-dire cette idée qu'effectivement, il y aurait une scission à travers cette réaction. Isabelle Barmeris, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense, pour reprendre l'image du chaman qui a été évoqué, je pense effectivement que Adèle, des gens comme Adèle Haenel qui se posent en lanceur d'alerte ou
c'est moi qui les ai qualifiés comme
ça. Dit, ou il y a quelque chose de cela, ou alors l'espèce. Alors le terme va être dépréciatif évidemment de ma part, la logorée rageuse de Virginie Despentes. Il y a cette volonté, effectivement, de transmettre une colère en reprenant un peu les codes, comme ça, d'un romantisme extrêmement agressif. Mais le problème, c'est que, alors, là, il y a une confusion entre représentation artistique et représentativité. Et je ne suis pas sûre que ces femmes représentent véritablement la communauté qu'elles entendent représenter. Pour une raison assez trivial, c'est que il y a une intention de représenter les victimes d'agressions sexuelles et les victimes de viol. Et pour cela, d'imposer un regard sur une œuvre, celle de Roman Polanski ou aujourd'hui de Woody Allen. Je ne pense pas que ce soit représenter des victimes de viol à qui on a déjà ôté quelque chose en termes de possession d'elles-mêmes que de leur ôter leur conscience critique sur une œuvre.
Alors, dit quoi,
j'ai pas l'impression que c'est ça le sujet. En fait, pardon.
J'ai l'impression que
ça m'entabaillit.
Ces discours obèrent un aspect extrêmement important quand même de l'expression artistique. C'est la conscience du spectateur. Voilà.
Moi, ça m'entabaillit. De manière très pragmatique et très réaliste, je crois qu'il est question de pouvoir. Je crois qu'il est question, tout simplement, de rapporter les univers des industries créatives au monde qu'il est tel qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des principes d'impunité, qu'il y a des principes aujourd'hui, des systèmes qui existent dans lesquels il peut y avoir une opacité. Et là, on revient au corps. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il est question de l'œuvre de Polanski. En tout cas, nous, c'est pas ce qui nous intéresse à la Ligue des auteurs professionnels. C'est finalement cette question de séparer l'homme de l'artiste quand, à un moment donné, nous savons qu'il y a un individu, quel qu'il soit, qui a pu profiter d'une certaine aura et d'un certain pouvoir. C'est finalement le propos d'Adèle Haenel, qui, je ne crois pas, a remis en cause les œuvres auxquelles elle a elle-même participé par ailleurs. Et c'est très intéressant, finalement, cette question, puisque c'est est-ce que les artistes-auteurs appartiennent ou non au droit commun, c'est-à-dire, mais je vous parle même des droits de l'homme, et c'est valable dans les deux sens, positif et négatif. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit à un moment donné d'être payé correctement ou pas? Est-ce qu'à un moment donné, nous devons, comme n'importe quel individu, passer au travers des prismes de la justice et de tout ça? Donc, j'ai pas le sentiment. Enfin, je crois qu'à chaque fois qu'on parle de l'œuvre, on détourne encore une fois un problème de fond qui est un système, comme cela vient d'être dit sur la façon dont sont structurés les Césars, de la façon dont ça fonctionne dans les industries culturelles. Il y a aujourd'hui des univers d'opacité, de cooptation, etc., où on est en droit de se poser des questions de ces fonctionnements.
18h44 sur France Culture, vous écoutez Le Temps du Débat. Qu'est-ce que notre société attend de ses artistes?
France Culture, Le Temps du Débat, Emmanuel Laurentin.
avec Samantha Bailly qu'on vient d'entendre, Louis-Julien Petit, réalisateur des films donc Les Invisibles entre autres et Discount, et Isabelle Barberis qui est auteur de L'art du politiquement correct aux Presses universitaires de France, et vous-même Myriam Bindou, vous vouliez prendre la parole sur ces questions.
Oui, enfin bon, moi ce que je pense c'est que il faut faire bouger les lignes aujourd'hui, on peut pas faire autrement. Donc je crois que le principe du happening parfois est une manière de faire passer des discours. C'est pas forcément très agréable, mais c'est une des façons, hein, comme le living théâtre ou le méta théâtre. Ce sont des manières d'arriver comme ça et de faire passer des idées fortes en force, puisque ces idées-là, de toute façon, elles sont totalement bloquées dans des systèmes qui ne, de toute façon, les feront pas bouger. Donc voilà, moi je pense que c'est une manière existentielle de faire passer des paroles fortes.
Isabelle Barberis, vous qui enseignez justement les arts du spectacle, effectivement on peut avoir considéré que des moments de rupture ont été des moments brutaux, d'une certaine façon, soit esthétiquement, parade, 1917, c'est un moment de rupture esthétique considérable et qui fait beaucoup bien parler sûr. De soi. Le Living, dont parlait à l'instant Myriam Bindou, en 68, le Living insulte Jean Villard à Avignon, et cela est un moment extrêmement dur de la vie de celui qui avait consacré sa vie au théâtre populaire, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous faites comme différence entre ce qui vient de se passer, par exemple, et ce qui s'est passé dans la longue histoire des spectacles?
La différence, c'est ce que j'appelle, ça fait un peu cuistre, mais c'est bon, c'est dans un livre aux Presses universitaires de France, c'est le continuum performatif. Bref, c'est-à-dire quel est l'impact, quel est l'effet de ce type de happening, si l'on considère le fait de se lever, de claquer une porte. Pour moi, ça s'appelle un peu du vaudeville et pas du happening. Pardonnez-moi, je suis un peu. Voilà. Mais comme du happening, dans quand c'est le happening généralisé, la société du spectacle, c'est le happening continuel. C'est la performance
et la communication
la communication en continu. Attention, je veux pas du tout qu'on se méprenne. Il faut évidemment, c'est d'ailleurs un sujet sur lequel je réfléchis à partir des arts, faire évoluer, faire bouger les lignes, comme vous l'avez dit. Mais depuis, moi, ce que j'observe, c'est que depuis que finalement le féminisme s'est inscrit dans le néo-féminisme, s'est inscrit cette féministe de quatrième vague, s'est inscrit dans la société du spectacle, on parle extrêmement peu des aspects légaux. Donc je suis très contente des aspects légaux, et moi je considère qu'ils tendent à les occulter, et qu'il y a aussi un problème de dédéfinition de ce que peut être une œuvre d'art et la fonction de l'artiste dans cette espèce de mégalomanie de la dénonciation qui peut
sur les aspects légaux, c'est un point essentiel sur lequel j'aimerais vraiment revenir, c'est-à-dire je parle pour les artistes auteurs là en l'occurrence, mais je trouve que le cas d'Adèle Haenel est du coup extrêmement intéressant à étudier à ce niveau. C'est aujourd'hui quand on dit que les artistes auteurs ne sont pas reconnus comme des citoyens et citoyennes à part entière, on parle d'un véritable vide juridique. Aujourd'hui, vous êtes une femme, vous écrivez des livres, vous publiez dans une maison d'édition, vous êtes victime de harcèlement sexuel ou de violence sexuelle, on ne considère pas que vous travaillez. Donc vous n'avez en fait pas vraiment de recours possible pour faire appliquer vos droits. Donc cette question à un moment donné du
sinon,
statut...
Le recours de tout citoyen ou toute citoyenne à aller devant la
oui,
justice.
Oui, mais il faut prouver une situation de travail. D'accord. Or, en fait, cette situation de travail n'est pas avérée aujourd'hui. Donc on peut créer des jurisprudences et espérer que ces jurisprudences commencent à construire une pratique, mais on est dans un univers dans lequel, en plus, c'est extrêmement difficile pour ces femmes de sortir du silence pour tout un tas de mécanismes qu'on a vus. Donc moi, je suis entièrement d'accord sur la question du fait que c'est le territoire du droit et que c'est ça qu'il faut saisir. Moi, j'ai surtout la sensation qu'aujourd'hui, c'est aussi une façon un peu désespérée parfois de réagir. En tout cas, je parle vraiment dans ce secteur-là, face au fait que ces femmes, nous, qu'on accompagne au quotidien, nous savons que ça va être extrêmement difficile juridiquement de prouver quoi que ce soit, puisqu'on ne considère pas aujourd'hui que la création est aussi un travail. Et c'était ça tout l'objet du rapport Bruno Racine, et c'est un sujet que Pierre-Michel Menger, qui a une chaire au Collège
de France,
en tant que sociologue, étudie. C'est à un moment donné, la création exclut-elle la notion de travail, et dans ce sens, nous, la notion de corps de la personne qui est derrière l'œuvre.
Donc ça veut donc dire que si on ajoute cette idée à l'idée du chaman dont on parlait tout à l'heure, ou de la chamane, à l'idée de l'avant-garde qu'on ajoute. Et si on ajoute aujourd'hui la question du salariat, c'est-à-dire enfin, du contrat de travail.
C'est-à-dire vous avez vous avez du droit du travail indépendant aussi. La question de la caractérisation justement de cette notion de travail, soit indépendant, soit salarié, ça c'est des questions, mais de reconnaître que cette activité est aussi un travail. Et là-dessus, c'est là que c'est important parfois de sortir du romantisme, c'est que dans certains secteurs des arts visuels, les choses sont un peu moins industrialisées, mais dans le cinéma ou dans l'édition, nous sommes, on l'a dit tout à l'heure, aussi dans des industries, en réalité, qui génèrent des milliards par rapport, vis-à-vis de ces œuvres.
Oui, et Louis-Julien Petit, ça veut dire sortir aussi de l'image que l'on peut se faire en tant qu'artiste soi-même, en particulier les artistes de théâtre ou de cinéma, d'être un saltimbanque, d'une certaine façon de vivre d'amour et d'eau fraîche, d'être toujours perché sur une branche et de ne pas avoir justement de droit. C'est aussi une des questions qui est une sorte d'imaginaire commun, qui est peut-être mal vécu, mais qui est un imaginaire commun dont il faut séparer si on écoute Samantha Bailly pour dire voilà, ayons des droits, défendons-les, etc., etc.
Oui, et surtout sur, par exemple, sur les illustrateurs, etc. Moi, j'entends parler là d'immunité, de cinéma, etc. Mais c'est, juste pour vous dire, mon petit témoignage, c'est que moi, je la sens, l'immunité, en tant que cinéaste, de réalisateur de cinéma, qui a fait, deux, trois films qui ont fait avancer des petites lignes à mon petit niveau, qui ont apporté une petite loi, un petit truc. Bon, ok. Le travail, comme vous le disiez tout à l'heure, mon travail se rapproche du sociologue, du journaliste, du biologiste, etc. Parce que tout le travail journaliste que je ressens, si j'étais pas réalisateur, je pense que je serais journaliste, de me fondre dans une micro-société et d'essayer de la maîtriser totalement pour essayer d'en ressortir quelque chose. Ce travail d'immunité, il est comme on
côtoie. Qu'est-ce que vous appelez travail d'immunité ?
Mais c'est-à-dire que on génère en tant que cinéaste un film, donc une idée, un courant d'idées, qui a fortiori sur une sortie salle pour un succès qui fait plus d'un million de personnes, c'est 10 fois plus dans la portée d'idées. C'est-à-dire que c'est 10 millions de personnes, 10, 15 millions de personnes pour Les Invisibles. On va dire que dans 4 ans, il y aura au moins 15 millions de personnes qui auront vu ce film en France.
Dont Isabelle Barry.
Pas encore Isabelle. Mais bon, voilà, elle existe. Mais voilà, il y aura 15 millions de personnes en France, puis à l'étranger, encore plus. C'est-à-dire qu'on est porteur d'idées. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a des personnes qui se rapprochent à nos idées. Bonnes ou mauvaises.
Et dans Les Invisibles, c'est quand même aussi une puissante histoire. C'est-à-dire que les idées viennent évidemment, enfin, il y a un propos, un engagement, mais c'est aussi une excellente histoire.
Mais c'est l'histoire de l'action citoyenne. Moi, je crois à ça. Donc, je me sens hyper loin de la conception de l'artiste. C'est pour ça que je dis, moi, je vois des gens qui se battent au quotidien, des travailleurs sociaux pour parler de ce film, qui sont au quotidien, pas reconnu, pas regardé, donc voilà, c'est pour ça que j'en ai eu envie de les filmer, parce qu'ils sont pas aidés à aider les autres, et je me dis, tiens, peut-être qu'on peut aussi avoir cette immunité et la mettre au service de valeurs nobles, et donner la parole à ces personnes-là en utilisant la force médiatique d'un film. La force médiatique et cette immunité, c'est aussi le temps de parole qu'on nous donne, comme aujourd'hui à nous, voilà, artistes.
Myriam Mindou, quand vous travaillez, vous dites que vous tendez à soigner les corps par les mots, puisque une des particularités de votre travail, hormis les performances que vous faites, c'est de tisser des mots sur les murs, des expositions que vous faites, et ces mots, ça peut être des mots dans une langue gabonaise, comme je crois que je n'ai plus le Yipounou, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui.
Et ça peut être aussi des mots comme analphabète, par exemple, ou comme d'autres mots, des amours, qui sont tissés sur les murs. Est-ce que vous pensez qu'en faisant cela, le tissage, on sait le rapport que cela peut avoir anthropologiquement avec la question de la pensée aussi. Est-ce que, en tissant ces mots, vous faites une action qui va changer le réel et qui va faire que ceux qui voient cela dans une exposition vont, disons, comme l'imagine Louis-Julien Petit pour ses films, partir avec autre chose?
Bah écoutez, il y a toujours ce qu'on montre. On montre toujours une partie de l'iceberg, hein, parce que le mot des amours, vous imaginez, c'est le tout et son contraire. Donc entre le son et les mots aussi, il faut peut-être travailler l'équilibre Je veux dire, c'est la question de l'oreille aussi, des compréhensions. On emploie des mots qui veulent dire le tout et leur contraire. Donc c'est intéressant.
La langue secouée.
La langue secouée, on est complètement comme des bébés secoués finalement. On perd un peu le vertige, je dirais, de certaines réalités. Quand j'utilise le mot menotte, par exemple, moi j'habite à Clichy, donc je vois régulièrement quand même de très jeunes adolescents menottés, c'est quand même assez violent. Quand j'utilise le mot menotte, je veux dire, c'est un mot qui est extrêmement doux et d'une violence implacable. Donc pour revenir à ce que vous disiez, je suis une artiste, j'ai du mal à dire que je suis une artiste chamane, c'est un peu compliqué pour moi de le formuler comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que je porte un regard sur ma société, de façon aussi crue que la vôtre, mais que je vais soigner par point d'acupuncture quand j'emploie des mots comme ça. Analphabète, aujourd'hui, nous sommes des analphabètes. Qu'est-ce qu'un analphabète, finalement? Nous avons des outils entre les mains et nous sommes dépassés par ces outils-là. Donc il y a une forme d'analphabétisme, quelque part.
Et qu'est-ce que vous voulez dire, Myriam Mindou, quand vous dites que l'artiste place des bombes? Symbolique, évidemment, mais... d'une certaine façon, il fait exploser le réel, il fait bouger l'inertie, il a cette capacité de rompre l'immobilisme.
Oui, parce que l'artiste est dans le mouvement et la transformation. C'est-à-dire que son travail, c'est de suivre le mouvement de sa société. Il est dedans, il est à l'intérieur. Déjà, il se déplace énormément. Moi, j'ai résidé dans différents pays. Je me déplace tout le temps en tant qu'artiste. Donc, je vois le monde comme un albatros pourrait peut-être le voir. Donc, j'ai une vision au-dessus du monde. Je ne suis pas, moi, au-dessus du monde. Mais j'ai tellement de relativité, d'expérience que, bien évidemment... C'est quelque chose avec lequel je travaille.
Isabelle Barmeris, qu'est-ce que vous pensez de cette question-là?
Oui, moi j'entends les mots donc chaman, soigner, poser des bombes. Ce sont des mots qui définissent l'artiste par une fonction performative, c'est-à-dire, je reviens toujours, d'efficacité directe sur le réel. Donc ça voudrait dire que on a complètement détruit la conception de la représentation comme cosmos fictif, comme efficacité certes, mais indirecte. Ça voudrait dire qu'on a voilà que même Brecht et has-been dans ce cas-là, même Brecht et n'a plus vraiment d'intérêt quand on est dans cette recherche-là. Et la question que je me pose, c'est que moi, je ne vois que, si vous voulez, en tant que langage artistique, et encore une fois, Myriam, je n'ai pas vu votre travail, donc, mais je me situe à un point de vue général de posture idéologique des artistes, je ne vois que des artistes qui adoptent cette position transgressive qui est caractéristique de l'art contemporain,
mais...
qui est le
mais qui est peut-être aussi l'héritage d'un siècle d'art contemporain.
Il serait temps que les artistes s'interrogent sur leur inefficacité, parce qu'à partir du moment où l'essentiel du langage est occupé par la fonction de transgression, par le fait de poser des bombes, ou par la volonté, comme l'a fait Joseph Beuys, de soigner l'humanité, et le résultat... Voilà, je m'interroge sur...
Je crois que la fonction de représentation est encore très présente. Non, mais sincèrement, je veux dire... nous sommes aussi dans la fiction, dans la narration, dans le fait de raconter des histoires. Et d'ailleurs, c'est sûrement lié à une forme transformative qui peut échouer ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être touché? Est-ce qu'à un moment donné, quelque chose dans un récit va venir nous bousculer? Ce qui ramène à vos questions sur quel récit on donne à dire et à qui on donne la voix pour raconter et dire
ça. François Truffaut disait, on joue un petit cinéma, soit pour se divertir, soit pour se reconnaître. Moi, j'aurais envie de lui dire, moi, je veux les deux. Parce que l'interrogation sur la société civile, et en tout cas, les non-réponses les non-réponses en lien avec les questions d'actualité du gouvernement, ou quel qu'il soit, on voit, en tout cas, dans l'année 2019, le nombre de films, de sujets de société, je vous parle de société, de sujets durs, qui ont rassembler un maximum de personnes parce que en incapacité de trouver des réponses ailleurs. Moi, je suis hyper content et fier qu'on soit au début d'un mouvement.
Voilà, donc jusqu'au bout, Isabelle Barmeris n'aura pas été d'accord avec vous. Merci Isabelle Barmeris d'être venue. Vous êtes auteure de l'art du politiquement correct aux presses universitaires de France. Pour votre travail, on peut le voir où désormais, Myriam Mindou, puisque l'exposition à la galerie Maya Müller est terminée. On peut le voir.
Écoutez, j'avais un focus au salon du dessin, mais avec ce corona. Corona d'ailleurs que j'ai placé sur un socle à Beaubourg, lors d'une de ma dernière performance, j'ai placé une couronne, donc peut-être que les artistes voient des choses, allez savoir. En tout cas, le musée du Quai Branly sera sans doute la prochaine exposition.
Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous, Louis-Julien Petit, réalisateur des Invisibles et de Discount. Et puis, merci également à vous, Samantha Bailly, présidente de la Ligue des auteurs professionnels. C'était le temps du débat. Le temps du débat, Chloé Cambrelin, Rémi Baye, Fanny Richet, Hugo Boursier, Manon Prissé, Alexandre Dang, aujourd'hui à la technique, Alexandre Manzanares, à la réalisation.